Merci. Nous allons prier le Seigneur, chers amis, afin qu'il nous accorde dans cet après-midi une visitation. Quand Dieu visite quelqu'un, on le sait. Si je vais vous visiter, vous allez le voir, je serai là. Alors, nous allons prier le Seigneur, on va se lever à notre place et on va ensemble partager. On va se décharger de ces fardeaux. On a besoin de parler, vous savez, quand on traverse des moments difficiles. Je crois que c'est une thérapie que de pouvoir se confier à quelqu'un. Par la parole, on reçoit, on communique. Et aussi en confiant à Dieu nos chagrins. Nous allons prier maintenant. Tu es venu afin de nous donner la parole du Père, qui est une parole de réconciliation, d'apaisement. Et tu es venu pour entendre aussi nos paroles. Tu nous dis parfois, que veux-tu que je te fasse? Tu veux nous entendre prier, t'appeler, te chercher. Nous ne te cherchons jamais vainement. Si nous cherchons Dieu, nous le trouvons toujours. Car Dieu lui-même, en premier, est à notre recherche, étant ta bonne main sur chacun de nous aujourd'hui. Apaise nos tourments, console notre cœur, rassure-nous dans nos inquiétudes, guéris-nous dans nos maladies, révèle-nous ta parole dans notre recherche de sens, de la vie, de la mort, de l'éternité. Nous te prions de nous parler à travers l'histoire de l'Évangile de ce jour, au nom de Jésus. Amen. On reste debout quelques instants à nos places pour chanter comme une prière collective. Car Dieu nous aime. On le connaît bien. Car Dieu nous aime, rien n'est secret, tous nos problèmes, il les connaît. Hein? Vous le connaissez bien ? Car Dieu nous aime, rien n'est secret, tous nos problèmes, il les connaît. Il nous appelle les bras ouverts pour c'est offert. Amen. Je vous invite à vous asseoir et à ouvrir avec moi le Saint-Livre, comme on l'appelait autrefois. C'est toujours le Saint-Livre. Dans l'Évangile de Jean, chapitre 5. Vous écoutez, vous lisez dans votre Bible, vous suivez, vous recevez surtout. Jean chapitre 5, au verset 1er. Il y a une fête à Jérusalem, la fête probablement des Pourim, c'est-à-dire le souvenir de la purification du temple. Ce n'était pas une fête biblique, mais enfin, on peut avoir des fêtes aussi, qui soient des fêtes parce qu'il s'est passé des événements, comme le 14 juillet. Alors, on lit Jean 5, verset 1er. Après cela, il y eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y avait des murailles avec des portes qui avaient toutes des noms. La porte des brebis. Il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre des malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Il y a une piscine. Hein. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui y descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri. Je vous expliquerai tout cela, bien sûr. Quelle que soit sa maladie, là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus, l'ayant vu coucher et sachant qu'il était déjà malade depuis longtemps, lui dit « Veux-tu être guéri ?» Le malade lui répondit « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. » « Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. » Aussitôt cet homme fut guéri. Il prit son lit et marcha. C'était un jour de sabbat. Nous pouvons arrêter notre lecture ici. Amen. Jésus va à Jérusalem. Il va rencontrer des malades. Il ne va jamais dans des lieux de pouvoir, de richesse, de joie. Il va plutôt ici, dans l'asile du coin, là où il y a en grand nombre des gens qui sont malades, désespérés. Ce ne sont pas des gens tellement agréables à regarder, hein. Des infirmes, des handicapés, des aveugles qui sont là, couchés à même le sol, disgracieux, ils ne sont pas beaux, ils ne sont pas attirants. Peut-être qu'avec les années, ne pouvant pas facilement se laver, ils sont devenus sales, laids, rejetés par les autres, méprisés. Surtout qu'au temps de Jésus, quand on avait un handicap, on disait toujours que c'était une punition de Dieu. Une punition de Dieu. Quelqu'un naissait handicapé, puni par Dieu. C'était une façon très carrée de voir les choses. Où on disait, c'est lui qui a péché ou ce sont ses parents. Devant un aveugle de naissance, les apôtres ont eu le même raisonnement. Qui a péché? Lui, pour qu'il soit né aveugle. S'il est né aveugle, il n'a pas pu pécher avant. Ou ses parents? Regardez comme la mentalité n'était pas trop évoluée. Remarquez, aujourd'hui, c'est à peu près la même chose. Quand on parle de Dieu, c'est souvent pour l'accuser de tous les maux de la terre. Quand on voit par exemple les chutes du Niagara, les poissons au fond de la mer, on dit, si on dit c'est Dieu, on dit pas du tout, c'est pas Dieu, c'est le hasard, c'est l'évolution. Mais quand on voit un accident de voiture, un enfant handicapé, on dit ça c'est Dieu. C'est Dieu qui fait le mal, mais Dieu ne fait jamais le bien. Voilà comment aujourd'hui on considère les choses. Alors Jésus va entrer avec tous ses apôtres. Et sans doute qu'en étant dans ce lieu où il y a des gens partout couchés, il va montrer à ses apôtres leur mission. Pour leur montrer que tout être humain est aimé de Dieu. Personne n'est exclu. Tous sont aimés, tous sont importants, tous ont une valeur devant Dieu. Je crois que Jésus veut leur montrer ça, parce que ces gens inconnus, méprisables, repoussants, on aurait tendance à passer par-dessus et à les oublier. Tous ont de l'importance. Nous devons apporter aux handicapés. Les handicapés nous apportent beaucoup. On les voit avec leur patience, leur courage. Ceux qui ont vu le film, j'ai un peu oublié le nom, dites-moi, les Mistral, comment ? Gagnant, les Mistral gagnants. Ils l'ont joué, ils l'ont passé il n'y a pas longtemps au TNB, un film réalisé avec des enfants malades et handicapés, un film bouleversant qui ne laisse personne indifférent parce que c'est des enfants condamnés, certains sont condamnés à mourir, et c'est eux qui ont tenu un rôle dans ce film. Mais ces gens handicapés nous apportent, comme les malades, par leur courage, leur persévérance. Vous savez, nous sommes dans une société où ce qui compte, c'est l'intelligence, il en faut quand même, hein. La force, la beauté, l'efficacité, le rendement. Et voilà que sur la terre, il y a des gens qui sont sans force, qui sont faibles, mais qui nous apportent des leçons de courage, de renoncement à soi-même, des leçons de persévérance et de joie, comme les enfants de ce film. Je pense aussi au petit Grégory qui chantait avec sa mucoviscidose. Vous vous en souvenez. Nous sommes tellement pris aujourd'hui par la recherche des honneurs, la recherche du profit, par le divertissement, qu'on évite les gens disgracieux, faibles. Bartimée, sur le bord du chemin de Jésus, on le faisait taire, on l'évitait. La syrophénicienne qui vient pleurer pour sa petite fille malade, on disait « tais-toi, ne parle pas, crie pas ». On évite les gens qui sont pas dans la norme pour nous. De plus en plus, il y a un fossé profond entre les forts et les faibles, entre les pauvres et les riches, entre ceux qui ont et ceux qui n'ont pas. De plus en plus, le fossé est large. Entre Dieu et nous, il y a un grand fossé. Il y avait un grand fossé, mais Dieu a mis un pont entre Dieu et nous. S'il a mis un pont, c'est parce qu'il va passer chez nous. Dieu est envahissant, vous savez. Il va nous envahir. Dieu ne rejette pas, il va vers chacun pour nous tendre la main. Alors, nous revenons à notre histoire. Il y a eu des fouilles à Jérusalem. Les archéologues ont cherché, ils cherchent toujours dans cette ville fabuleuse, ils cherchent toujours des vestiges du passé, et ils ont trouvé un grand bassin où il y avait une source d'eau thérapeutique. Il y en a en France, il y a Vichy, il y a Vittel, Contrexéville. Et il y avait une source thérapeutique qui jaillissait par intermittence. J'ai habité à côté de Vittel dans les Vosges. C'était une ville magnifique et c'était un plaisir de boire l'eau de Vittel, n'est-ce pas ? Quand je suis allé à Vichy, on m'a dit surtout, je pensais boire un litre ou deux d'eau de Vichy. Oh, prends-en une cuillère, ça pourra te suffire. Parce que c'est une eau qui agit terriblement sur notre santé. Bon. Alors, il y avait donc un bassin, une source dans l'eau, sous le bassin, et puis de temps en temps, hop, l'eau sortait. Et on disait, vous savez, pour moi, personnellement, je pense que c'est une légende. On disait que quand l'eau sortait, ça bouillonnait, que c'était un ange qui remuait l'eau. Et puis, on continuait d'imaginer que cette eau qui était remuée, le premier qui entrait dans l'eau était guéri. Qu'il soit paralysé, aveugle, handicapé. Le premier qui rentre dans l'eau, il est guéri. Vous imaginez ? Oui, vous imaginez. Vous imaginez quand l'eau commence à bouillonner, la cohue. Il n'y en a qu'un guéri, un sur 200 ou 300. La cohue, la bousculade, la compétition. Et qui arrivait le premier dans l'eau ? Pas le pauvre handicapé, pas celui qui n'a qu'une jambe. Celui qui arrivait le premier, c'était un jeune homme qui avait un petit mot de gorge. Ben lui, il avait la force, pouf, il se plongeait dans l'eau et puis ça allait mieux. Puis ceux qui étaient vraiment handicapés, ils n'allaient jamais jusqu'à l'eau. Il restait en rade au bord de la route pour toujours. Chacun pour soi. C'est pourquoi je pense que cette histoire a été une légende sur la source. Parce que c'est l'histoire du chacun pour soi. Le plus fort gagne, les faibles restent derrière. Et ça, ce n'est pas la mentalité de Dieu. Alors Jésus va dans ce lieu païen. Il ne dit pas aux apôtres, prenez tous les malades, jetez-les à l'eau. Comme ça, ben, le premier qui ira dans l'eau sera guéri. Il ne le dit pas. Il ne fait pas le service d'ordre. Moi, je l'imagine plutôt dans ce lieu qui avait des portiques comme ici, il y avait des portiques. Je l'imagine plutôt allant de l'un à l'autre avec une parole d'apaisement, une parole de bonté, qui rassure, qui valorise, parce que ces gens étaient dévalorisés, qui redonne du tonus, qui redonne de l'espoir. Je ne pense pas que Jésus leur disait « Mets-toi à l'eau », ils ne pouvaient pas y aller. Et puis, il a remarqué un homme, sachant que lui qui connaissait la pensée des cœurs, cet homme était là depuis 38 ans, parce qu'il était paralysé, et cet homme s'accrochait, il accrochait sa vie à de l'eau qu'il n'arrivait jamais à atteindre. Depuis 38 ans, il se levait et il retombait. Et il faisait dépendre sa vie de l'eau qu'on ne pouvait pas atteindre et de la charité des autres qu'il n'avait jamais reçue. Personne ne lui a dit « Monsieur, je vois que vous êtes là depuis 30 ans, est-ce que vous voulez que je vous amène à l'eau ?» Personne, personne lui a dit « Voulez-vous un coup de main ?» Et cet homme, il est là toujours, au bord de la piscine, attendre que, vous savez, l'espoir fait vivre. L'espoir fait vivre. Alors, devant cette histoire, je me suis posé, vous comme vous, des questions. Je me suis dit, mais est-ce possible qu'un ange du Seigneur soit aveugle, sans pitié, et puis valorise le plus fort, le plus jeune, puis laisse tous les gens malades derrière? Est-ce possible qu'un ange du Seigneur soit aussi cruel? Je pense vraiment qu'il s'agit d'une légende sur un fait pour expliquer le bouillonnement de l'eau. Bon, il y a des légendes en France, en Bretagne ça ne manque pas, il y en a partout. En tous les cas, cette histoire, elle laisse quand même notre homme dans sa souffrance, dans son désespoir, et quand Jésus va lui poser la question « Veux-tu être guéri ?», il va dire « Je n'ai personne ». Ils étaient peut-être 500 dans la piscine, là, autour de la piscine. 500, mais lui, il a dit « Je n'ai personne ». On peut être dans une foule et dire « Je n'ai personne ». Quelques heures plus tard, quelques jours plus tard, Jésus va faire un petit voyage, il va aller en Samarie, et il verra une femme qui lui dira « Je n'ai pas de mari ». Combien de solitude, mes amis ! Je n'ai personne, je n'ai pas de mari, je n'ai pas d'enfant. Je n'ai plus de famille, combien de solitude dans les maisons. Cela veut dire, personne ne se soucie de moi. Personne ne m'aime. Quand on dit je n'ai personne, ça veut dire personne ne m'aime. Et Jésus, il a été touché par cette détresse. Parce que vous imaginez 38 ans, attendre quelque chose qui ne vient jamais. Chers amis, notre souffrance touche le cœur de Jésus. Même si c'est une souffrance sans prière, il n'a pas prié, hein. Même si c'est une souffrance avec nos imperfections, même une souffrance sans la foi, cet homme, il n'a pas prié, il n'a pas montré qu'il avait la foi, mais Jésus, avec cet homme, n'a pas répondu à un cri de foi. Il a répondu simplement à un cri de détresse. « Je n'ai personne pour me jeter dans l'eau. » Quand les enfants d'Israël étaient captifs en Égypte, ils gémissaient, ils pleuraient, ils râlaient. Ils étaient dans l'agonie à faire des briques toujours, toujours. Et leur gémissement, ils ne priaient pas, ils ne priaient plus, ils ne savaient plus prier, mais leurs gémissements sont montés vers Dieu comme une prière. Et cet homme, quand il dit « Je n'ai personne », je pense que c'est monté vers Dieu comme un cri d'appel, comme une prière. Et Jésus est touché par les cris des gens désespérés. Personne ne voulait voir cet homme. Jésus l'aime. Personne ne l'aimait, on ne lui parlait pas, on ne l'aidait pas. Jésus l'aime. Et devant cet homme qui est là et autour de lui, il y en avait des dizaines et des dizaines, Jésus va lui dire simplement un seul mot. Prends ton lit, ton grabat, ta civière. Ce n'était pas un lit monumental, moderne, c'était simplement une natte. C'était simplement une petite couverture. prends ton lit et puis rentre dans ta maison, marche. Quand Jésus donne un ordre, il donne la force de l'accomplir. Quand il a dit que la mer grouille de bestioles au commencement du monde, que la mer grouille de bestioles, la mer a commencé à bouillonner, puis il y a eu des bêtes qui sont sorties par millions, par milliards. Que la terre produise des animaux, des plantes, et tout s'est mis en ordre. Et quand Dieu, le même Seigneur de l'univers, de l'histoire, dit à cet homme, prends ton lit et marche. Ça veut dire, je te donne la force de marcher. Dieu fait ce qu'il ordonne. Si je te dis de marcher, parce que je vais te donner la force de marcher. La force d'être consolé et de continuer. Mais me direz-vous, pasteur, mais pourquoi est-ce qu'il n'a pas guéri tout le monde qui était dans la piscine ? Il aurait pu faire 500 miracles. C'est vrai, il ne les a pas guéris. Mais il leur a donné un signe, une petite lumière. Et je pense que quand cet homme, il s'est levé devant tout le monde, quand il a pris avec lui sa civière, son brancard ou sa couverture, quand il a mis cette civière sur ses épaules ou sous ses bras, je pense que quand il est passé au milieu de la foule, il était comme un signe, comme s'il voulait dire, regardez, Jésus est vraiment celui qui fait rayonner la vie, qui donne le bonheur, qui donne la force, qui donne de surmonter ses chagrins, surmonter sa solitude, surmonter son deuil, sa détresse. Regardez, je marche, Jésus est capable de nous donner une vie rayonnante. C'était un évangile vivant, un message vivant, même s'il n'a pas parlé, il n'a pas dit écoutez-moi tous. Il est passé et son visage joyeux, sa marche assurée, son grabat, son lit sous ses épaules, eh bien ça, c'était un signe que Jésus guérissait, que Jésus aimait. Veux-tu ? Je n'ai personne. Voyez-vous, cet homme, quand le Christ lui a dit « Veux-tu être guéri ?» Cet homme, il n'a pas dit « Eh bien Seigneur, oui, je veux être guéri, aide-moi à me lever et emmène-moi dans la piscine. » Il n'a pas dit ça, il a dit simplement « Je n'ai personne. » Je ne crois plus. Vous savez, quand on est toujours repoussé, quand on a refus sur refus, on finit par se couper des autres. Parce qu'on ne veut plus être encore rejeté. Alors, il n'a pas dit à Jésus, oui, je veux être guéri, aide-moi. Non, je ne veux rien, je n'ai besoin de rien, je n'ai personne. Il ne veut plus qu'on l'aide parce qu'il a peur de la déception. C'est terrible la déception. Quand on est déçu, notre cœur est blessé toujours un peu plus. Et notre cœur se ferme. Et c'est pourquoi il a préféré dire « Je n'ai personne ». Voilà. Pour ne pas être à nouveau déçu une fois de plus. Veux-tu être guéri ? On a l'impression que cet homme, il ne veut pas être guéri. Veux-tu ? Mais pour éveiller l'envie de vivre, il faut qu'on pose des questions. Jésus pose des questions. Veux-tu être guéri ? Il faut du temps pour nous éveiller à l'envie de vivre, l'envie d'espérer, l'envie d'aller plus loin. Veux-tu ? Faut que ça vienne des profondeurs. Parce que cet homme, s'il commence à marcher, ça veut dire que, ça y est, sa vie, il faudra qu'il se lève le matin, il faudra qu'il aille à son travail, il faudra qu'il se rase. Il faudra qu'il s'occupe de sa famille, il faut qu'il recommence, il faut qu'il motive sa volonté. Veux-tu être guéri ? Il y a des personnes qui sont tellement dans le découragement, le désespoir, qu'elles n'ont plus l'envie, elles n'ont plus le courage de prier, n'ont plus l'envie de vivre, l'envie de se battre. C'est pourquoi Jésus, il réveille cette envie, ce désir. Nous, l'Évangile, c'est vraiment Dieu qui nous éveille à autre chose. Venez, voyez, viens et vois. Il faut voir Dieu pour avoir le désir de lui demander tellement de choses. Veux-tu être guéri ? Je pense qu'ici, le Seigneur nous pose la même question. Veux-tu vivre ? À nous qui voulons vivre, le Seigneur nous dit, suis-moi. À nous qui voulons vivre toujours, le Seigneur nous dit, je vous ressusciterai au dernier jour. Le Seigneur, oublions un instant cet homme de Bethesda qui s'est levé. Il s'est levé, il n'a pas été dans la piscine, il est reparti chez lui, je ne crois pas sous les applaudissements, mais sous l'étonnement général. Pensons à nous. Le Seigneur veut guérir notre paralysie intérieure. Parfois, on n'a plus l'énergie. On ne sait plus ce que c'est que de sourire le matin, de se coucher en paix, de regarder la nature comme une joie, un bonheur. Il nous manque quelqu'un et rien ne nous fait plus rien. On a perdu quelqu'un, on a perdu un emploi, on a perdu une raison de vivre. Et puis tout le reste se démonte parce qu'on a le sentiment que sans ce à quoi on soupire, tout le reste ne vaut plus rien. Alors le Seigneur veut guérir cette paralysie intérieure qui est en chacun de nous, qui est une pesanteur, une lourdeur, un chagrin. Il ne veut pas que nous restions enfermés dans nos craintes, notre culpabilité, les regrets du passé. Dieu ne veut pas qu'on reste enfermé dans l'ignorance de Dieu, qu'on ne sache plus où l'on va, qu'on ne sache plus qui on est, qu'on ne sache pas que là-haut il y a une place préparée pour nous. Le Seigneur ne veut pas qu'on reste dans le brouillard, alors qu'il dit « Je suis la lumière du monde ». L'apôtre Jean disait dans son épître « La nouvelle que nous avons apprise de lui, c'est que Dieu est lumière ». Ça veut dire Dieu se montre, Dieu se fait connaître, Dieu se révèle. Quand on cherche, on le trouve. Quand on l'appelle, il est là. Dieu est lumière. C'est comme si je vous disais le soleil, on n'a pas besoin de le chercher, enfin, on cherche un peu aujourd'hui. Il est là, il est au-dessus de nous. Voulez-vous être guéri ? Un peu plus loin, dans le même chapitre 5 de l'évangile de Jean, le Seigneur a posé une question à ceux qui l'entouraient. Pourquoi ne voulez-vous pas venir pour avoir la vie ? Pourquoi ne voulez-vous pas venir ? Il dit au paralysé, veux-tu être guéri ? Et après il dit, pourquoi ne voulez-vous pas venir ? Je pense qu'il touche là à notre péché le plus fondamental, le plus profond, le plus grave. Notre péché profond, c'est de ne pas venir à lui. Notre péché profond, c'est de ne pas l'accueillir. Quand j'étais enfant, on me disait, manger des bonbons, c'est un péché. C'était pas faux. Parce que j'étais chez le dentiste assez vite, donc il ne fallait pas manger de bonbons, c'est vrai. Enfin, ce n'était pas un péché quand même, très grave. Le vrai péché, c'est de ne pas venir vers lui. C'est de rester sur ses positions bloquées et de ne pas le laisser nous dire, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. » Jésus est au milieu de nous. Viens à lui, accueille le Seigneur. Nous allons prier ensemble. Nous allons nous remémorer cette histoire du paralytique de Bethesda. Nous allons refaire l'histoire dans notre cœur en se disant que ce qui est sera toujours. Ce qu'il dit, il le dira toujours. Veux-tu être guéri ? Veux-tu être consolé ? Veux-tu vivre dans le rayonnement de l'existence ? Parce qu'on n'est pas fait pour vivre dans la désolation, dans des chemins cassés, on est fait pour, sur la terre, avoir un rayonnement intérieur. Je ne dis pas un rayonnement politique, un rayonnement sur le monde, mais à l'intérieur de nous. Mais ça dépend tellement de nos enfants, de notre foyer, de notre famille. Ça dépend de nous, en premier. Veux-tu être guéri ? Laissons le Seigneur nous appeler ainsi. Inclinons nos têtes et pendant quelques instants, nous allons répondre au Seigneur. Nous entendons ta voix cet après-midi, cette voix qui a été donnée à la piscine de Bethesda envers un homme qui était dans la misère. Et toi, tu as parlé dans cette piscine qui signifie « maison de miséricorde ». Il y a nos misères et il y a ta miséricorde. Seigneur, à cette question, veux-tu être guéri ? Nous voulons répondre « oui, aide-moi, relève-moi, je m'appuie sur toi. Le Seigneur est mon aide, que peuvent me faire les autres ? Le Seigneur est le rocher de mon salut. Nous voulons nous appuyer sur ton amour qui est infaillible. Il durera plus longtemps que tout. Et si même nous devions t'oublier dans notre vie, toi, tu nous aimeras toujours. Comme une mère aime toujours son enfant, quoi qu'il devienne. Je te prie, Seigneur, de nous prendre par la main et de nous relever, de nous lever en signe de résurrection. Notre vie sur la terre a besoin de beaucoup de résurrection. Prends-nous la main et relève-nous au nom de Jésus. Amen.